Mais nous, nous croyons que Dieu est suffisamment digne de gloire pour que nous lui exprimions avec vigueur, énergie, chacun selon notre personnalité, bien sûr, ce qu'il y a dans notre cœur. Voilà. Nous allons aujourd'hui nous entretenir de notre identité. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous, bien sûr, en tant que chrétiens ? Quand on lit la Bible, la parole de Dieu, on s'aperçoit que, bien souvent, des personnages bibliques, donc, qui ont vécu une expérience spirituelle marquante, décisive dans leur vie, ont vu leur nom être changé. Par exemple, Abraham est devenu Abraham, père d'une multitude. Jacob, ça voulait dire le supplanteur, est devenu Israël, c'est-à-dire le vainqueur. Pourquoi ? Parce que ces gens-là sont passés par quelque chose qui a bouleversé leur vie, et ils ont donc reçu non seulement un nom nouveau, mais une personnalité nouvelle, une identité nouvelle. Et nous aussi, chrétiens, croyants, c'est là ce que nous avons vécu. Amen. Nous avons vécu une expérience, je dis une expérience. Non, nous n'avons pas adhéré à un système religieux, à une organisation, à je ne sais quelle conception philosophique particulière, mais nous avons vécu avec Dieu quelque chose, une expérience qui a bouleversé, qui a changé le cours de notre vie. Et de ce fait, eh bien, Dieu nous a donné une nouvelle identité. Oh, notre état civil n'a pas changé, hein. Sur notre carte d'identité, il y a toujours le même nom. Mais pour Dieu, eh bien, c'est différent. Pour Dieu, nous avons reçu en lui et par lui une nouvelle identité, nous chrétiens, nous croyons. Alors, qui sommes-nous ? Eh bien, cette nouvelle identité, elle se décline en quatre éléments. On pourrait en trouver d'autres, mais on s'arrêtera là parce qu'ensuite la mémoire va nous faire défaut. Nous sommes des enfants de Dieu, premièrement. C'est notre identité. Nous sommes des disciples de Christ. Nous sommes des membres du corps de Christ, corps de Christ qui est l'Église, et nous sommes aussi des ambassadeurs et des témoins du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, si vous voulez, durant quelques instants, on va essayer d'analyser ces divers éléments. Nous sommes tout d'abord des enfants de Dieu. L'Écriture déclare qu'autrefois, nous étions enfants de colère et fils de la rébellion. La rébellion de l'être humain, de l'humanité, a commencé, vous le savez, dans le jardin d'Éden, lorsque nos ancêtres, Adam et Ève, ont délibérément, en toute connaissance de cause, choisi de désobéir à la parole de Dieu, à l'ordre divin. Et après eux, eh bien, nous avons suivi les mêmes traces, n'est-ce pas ? Jésus dira même que nous avons, tout au moins avant que nous le recevions comme notre sauveur, nous avions pour père le diable. Oh, quelle horreur! Mais c'est là une réalité, n'est-ce pas? Mais désormais, par Jésus-Christ, nous avons bénéficié d'un changement de statut. Dieu est devenu notre père. Alléluia! C'est pas une appellation, c'est pas un terme, c'est pas un slogan, c'est une réalité. Dieu est devenu notre Père et nous sommes devenus ses enfants. Alors, si vous voulez bien, eh bien, nous allons à cet égard lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 14. Un texte qui, à cet égard, est significatif. Il y en a d'autres qui vont dans le même sens, mais enfin, on se contentera de celui-là ce matin, ce sera déjà pas si mal. Donc, Romains chapitre 8 et le verset 14, il est dit ceci, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions, nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui Amen. Nous avons bénéficié, nous dit le texte, de l'adoption divine. Et nous écrions Abba, Père. Vous voyez, Abba, c'était le mot araméen que les petits-enfants israélites, les petits-enfants juifs, à l'époque du Seigneur Jésus, quand il était sur la terre des hommes, c'est le mot dont ils se servaient pour appeler leur Père. C'est l'équivalent de notre Papa. Hein. C'est le premier mot ou l'un des premiers mots qu'un enfant prononçait lorsqu'il apprenait à parler Abba, Abba Père. Eh bien, cette intimité, ce lien affectif que nous avons avec Dieu, nous en bénéficions, nous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur. Vous voyez, nous avons bénéficié de l'adoption divine. C'est quand même pas rien. Dieu nous a inclus dans sa propre famille. Alléluia. Famille qui est composée de lui, le Père, de Jésus, le Fils aîné, et puis de tous les frères et sœurs que nous pouvons avoir sur la terre tout entière, et même ceux qui nous ont précédés dans la gloire des cieux. Alors, quels sont les effets de cette adoption? Parce qu'il y a des résultats, il y a des effets. D'abord, en tant que Père, ça c'est sur la terre, Dieu a promis de pourvoir à nos besoins quotidiens. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus, dans le sermon sur la montagne, dira « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, etc. etc. » Car dira Jésus, ça ce sont les païens, les incroyants, ceux qui vivent sans foi ni loi, qui se préoccupent de ces choses. Votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Alors, cherchez premièrement, dira Jésus, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses légitimes en elles-mêmes vous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est un Père et qu'il pourvoit à nos besoins quotidiens sur la terre des hommes, que son nom soit béni. Et d'autre part, nous l'avons lu d'ailleurs, d'autre part, nous sommes ses héritiers. Et l'héritage dont il est question là est un héritage non pas terrestre, mais un héritage céleste, un héritage éternel. C'est l'apôtre Pierre qui en parle dans son épître, et il dit ceci: nous avons été régénérés pour une espérance vivante par Jésus-Christ, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Un héritage céleste. Moi, je me réjouis de ce que quelque chose m'attend là-haut. Amen. Quelque chose m'attend là-haut. Et je crois, voyez, j'insiste souvent, peut-être trouverez-vous que j'insiste trop, que nous ne devons pas perdre de vue cette réalité, mes amis, c'est que nous sommes sauvés pour le ciel. Alléluia. Nous sommes sauvés pour le ciel et nous devons avoir nos yeux intérieurs, les yeux de notre âme ou de notre cœur, comme vous voulez, braqués vers cette direction, vers cet objectif, le ciel, la gloire, l'éternité, où Jésus nous a précédés, où il nous a préparé une place et où nous serons avec lui pour l'éternité. Un héritage céleste qui ne peut, dit le texte que je vous ai cité, ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Vous voyez, ici-bas, tout passe. Ici-bas, c'est extrêmement fragile, volatile, n'est-ce pas, éphémère, illusoire. Mais là, il s'agit de valeurs et de réalités éternelles. Et nous percevrons la totalité de notre héritage, c'est vrai, lorsque le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Mais en attendant, Dieu nous en donne ici-bas un acompte. Un avant-goût. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 21, l'apôtre dit ceci: celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que les arts? En matière commerciale, en transaction immobilière. Qu'est-ce que c'est que les armes? Ouais, c'est un acompte. Oh, vous savez pas ça? Hein? Ouais, les anciens le savent, les jeunes, ils ouvrent des yeux comme ça. Hein? Les arts, c'est un acompte sur le versement total du prix de la vente. Voyez, c'est un avant-goût de ce qui se passera après. Eh bien là, nous avons reçu les arts de l'esprit. À présent, de Dieu en nous par le Saint-Esprit est un avant-goût de la gloire à venir. J'aime la présence de Dieu. Amen. Pas vous? Amen. J'aime la présence de Dieu. C'est pour moi extrêmement précieux. Vous savez, pasteur, responsable d'église, c'est bien, mais c'est pas ça qui compte. Parce que si la présence de Dieu n'est pas là, si l'onction du Saint-Esprit n'est pas là, si, n'est-ce pas, la vie intérieure n'est pas authentique, eh bien, je le disais vendredi soir pour ceux qui étaient là, on est comme, vous et moi, comme une coquille vide. C'est creux. Il n'y a rien de vrai. On peut avoir le vocabulaire. On peut avoir les termes évangéliques. On peut avoir la teinture religieuse correspondant à ce à quoi nous sommes habitués. Mais ce qu'il faut, c'est la réalité intérieur, les arts de l'esprit. Et quand on est visité par le Saint-Esprit, oh alléluia, c'est comme un coin de ciel qui descend dans notre cœur. Amen. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez vécu de ces moments particuliers qui ont marqué votre vie de croyant, ce jour-là, ce matin-là, cette nuit-là, dans une occasion particulière, vous vous êtes approché de Dieu, ou plutôt Dieu s'est approché de vous, et intérieurement, il s'est passé quelque chose. Ça n'était pas un rêve, ça n'était pas, n'est-ce pas, le résultat d'une manipulation psychologique dont vous auriez été victime. Mais le Saint-Esprit, la gloire de Dieu est descendue dans votre cœur, alléluia. Vous avez perçu les arts de l'Esprit. Eh bien ça, mes amis, ça, il faut le garder précieusement. Et il faut qu'encore fréquemment, vraiment, dans notre vie personnelle, dans notre temps de prière, le Saint-Esprit puisse nous visiter. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est encore votre cas? Il y a trop de chrétiens, je m'en aperçois, qui sont étrangers à la réalité de la vie intérieure, de la vie de l'esprit. Attention, je ne remets pas en cause la réalité de leur salut, la réalité de leur conversion, la réalité de leur nouvelle naissance pour certains d'entre eux. Mais ne vivez pas une petite vie chrétienne étriquée, rabougrie, misérabiliste. Ayez soif des choses de Dieu. Et dites, Seigneur, c'est à présent dans mon cœur que je veux. C'est que tu veux, je veux que tu me remplisses de ton esprit. Je veux vivre ces réalités, les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Alléluia. Les arts de l'esprit. Que Dieu soit béni pour la réalité de la Pentecôte que nous avons pu, beaucoup d'entre nous, expérimenter et vivre. Donc nous sommes des enfants de Dieu et notre responsabilité enfant de Dieu est grande. Il s'agit de ne pas mépriser l'héritage. Hein? Il y a un homme dans la Bible qui a méprisé l'héritage. Vous vous rappelez son nom? Comment il s'appelait? Eh oui, Ésaü. Hein? Il a vendu son droit d'aînesse. Alors, dans l'affaire du droit d'aînesse, il n'y avait pas simplement l'héritage du cheptel, hein? Les vaches, les bœufs, les brebis, et je ne sais plus quoi encore. Mais il y avait aussi et surtout l'héritage spirituel parce que nous sommes là au sein de la famille d'Abraham et la bénédiction de Dieu se transmettait de génération en génération, n'est-ce pas? Et cet homme, Ésaü, cet insensé, ce fou qu'il a été pour un plat de lentilles, vous vous rendez compte? Un petit salé aux lentilles, il a vendu le droit d'aînesse. La Bible dit qu'il a méprisé. Pourquoi? Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous dit que Ésaü, c'était un profane. Qu'est-ce que c'est qu'un profane? Ce n'est pas forcément un blasphémateur. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui tend le poing contre le ciel en s'en prenant au nom du Seigneur. Non, un profane, c'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt particulier pour les choses de Dieu. Voyez? Et quand il a été sur le point de conclure ce marché avec son frère Jacob, Ésaü a fait cette réflexion complètement insensée. Mais à quoi me sert ce droit d'aînesse? Ben, à quoi ça sert les choses de Dieu? À quoi ça sert de croire en Dieu? À quoi ça sert d'avoir la foi en toi, Seigneur? À quoi ça sert de croire? Et il est passé à côté de la grâce. Ne méprisons pas notre héritage. Il est précieux, alléluia, infiniment précieux, et il doit le rester à nos yeux. Il faut prendre au sérieux l'affaire de notre salut. L'Écriture dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ne méprisons pas les choses saintes que Dieu nous a données par sa grâce. Voyez, par sa grâce. Soyez bénis de Dieu, appréciez cette bénédiction d'être enfant de Dieu. Ce qui compte le plus, ce qui doit compter le plus pour vous et pour moi, ça n'est pas le service que nous accomplissons pour le Seigneur. Non. Ce qui doit compter le plus pour moi, ça n'est pas mon ministère de pasteur, mais c'est la relation que j'ai avec lui. C'est la communion que j'ai avec lui. J'ai vu trop de croyants, et même de serviteurs de Dieu, allez, disons-le clairement, qui, n'est-ce pas, ont mis l'emphase sur leur ministère, sur les succès même qu'ils avaient dans le service de Dieu, mais la réalité de leur vie intérieure était bien triste et bien misérable. C'est paradoxal peut-être, mais en dépit du succès qu'ils avaient sur le devant de la scène publiquement, il y avait une pauvreté spirituelle personnelle évidente, et ça a été finalement la catastrophe. Ce qui prime, ce qui doit primer pour nous, ça n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et nous devons jalousement veiller, vous et moi, sur notre position d'enfant de Dieu. Non pas sur notre fonction dans l'Église, mais sur notre position, sur notre identité d'enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Sommes aussi autre chose, sommes des disciples de Christ. Vous connaissez ce passage, on peut le lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et au verset 18 où le Seigneur Jésus, s'apprêtant à retourner vers son Père céleste, dira ceci au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu au verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Vous avez remarqué ce que dit Jésus? Allez, faites de toutes les nations des disciples, disciples de Christ. Si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, je cite simplement le texte, chapitre 11 au verset 26, il est dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À l'origine donc, le mot chrétien, ce ne sont pas les chrétiens qui se le sont donné. C'était un sobriquet, méprisant d'ailleurs, que les incroyants, les païens, ont utilisé pour désigner les partisans de Christ, les disciples de Christ. En tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire, chrétien, un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui appartient à Christ, qui dépend de Christ, qui est disciple de Christ. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Le mot disciple signifie littéralement élève, étudiant, écolier. Voyez? Dans la sphère grecque, hein, dans le temps du Nouveau Testament, le disciple, c'était celui, indépendamment des chrétiens, déjà avant que Jésus ne paraisse, ce mot était employé pour désigner ceux qui se plaçaient à l'écoute d'un maître. Et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, le maître en question, bien sûr, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Et le disciple se doit d'avoir un objectif précis. Un objectif que le Seigneur décrit dans l'évangile de Luc au chapitre 6 au verset 40. Il dit ceci, tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Oui, notre but, c'est d'aller au ciel, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi d'imiter, de ressembler, de produire ou de reproduire ce que nous voyons dans la personne de Jésus. C'est-à-dire notre maître, pour parvenir à être comme lui. Il faut, mes frères et sœurs, quel objectif noble et élevé aussi le Seigneur nous a fixé, quand nous voyons vivre, les gens de l'extérieur puissent voir qui ? Un membre de l'église évangélique de Pentecôte d'Annecy, plus que ça. Quand nous voyons vivre, les gens de l'extérieur puissent voir Jésus. Il y a donc en tant que disciple une formation à acquérir, que Jésus définit là. Hein? Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et il n'a pas dit point final. Mais il a ajouté, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il y a tout un programme, tout un processus de formation à acquérir. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voyez-vous, cet enseignement que le Seigneur veut nous dispenser n'est pas purement théorique, mais il doit aboutir à la mise en pratique. Enseignez-leur à observer, pas seulement à connaître, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il nous enseigne ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et il nous enseigne aussi comment y parvenir. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas un catalogue de commandements et d'interdictions. Si c'était que ça, ce serait désespérant. Mais non seulement le Seigneur nous donne des commandements, des prescriptions, mais il nous enseigne comment nous pouvons, par sa grâce, parvenir à mettre en pratique ce qu'il nous ordonne. Quelqu'un a dit, Dieu donne ce qu'il ordonne. Il nous enseigne de différentes manières. Il nous enseigne par sa parole. Il nous enseigne par son esprit. Il nous enseigne par les circonstances de la vie. Et il nous enseigne aussi les uns par les autres. Alléluia. Nous sommes, que nous voulions ou non, des enseignants les uns pour les autres. Et il faut savoir puiser dans l'autre, ce qu'il peut avoir de bon à nous communiquer. L'exemple qui peut être pour nous dans tel ou tel domaine. Peut-être que dans un autre domaine, eh bien, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Mais je dois m'appliquer, non pas à le juger sévèrement, mais je dois m'appliquer à mettre en évidence plutôt les qualités qu'il a pour m'en inspirer, s'éduquer, se former les uns par les autres. Il ne faut pas non plus retarder l'acquisition de ce savoir et de ce faire. Vous savez, l'apôtre fera un reproche à ses lecteurs. L'apôtre Paul y dira, « Vous qui, depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Christ. » Et trop souvent, voyez, il semble que pour certains chrétiens, les choses les plus élémentaires de la foi évangélique, de la foi biblique, ne sont pas encore complètement acquises, et il faut revenir sans cesse sur ces principes primaires, évidents. Non, que Dieu nous aide, parce que, notamment par notre lenteur à croire, nous retardons parfois l'œuvre de Dieu. Lorsque Jésus a rencontré les deux disciples d'Emmaüs sur le chemin, il a pu leur dire ceci, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. » Et je vous assure que c'est un reproche que le Seigneur peut aussi me faire. « Hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire, ne sommes-nous pas si souvent lent à croire, lent à faire confiance, Il me semble que parfois j'entends résonner en quelque sorte la voix du Seigneur dans ma tête et dans mon cœur, comme s'il me disait, mais enfin, après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as expérimenté, tous les témoignages de ma fidélité, ne peux-tu pas un peu plus apprendre à me faire confiance? À me faire confiance. Que Dieu nous aide à ne pas stagner, mais à progresser, à développer notre maturité. Que tes progrès, dira Paul à Timothée, soient évidents pour tous. Est-ce que vous avez envie de faire des progrès? Ah, c'est facile de dire amen. Est-ce que vous avez envie de faire des progrès? Analysez cette réalité. Est-ce que, eh bien, voilà, vous avez enfermé peut-être votre vie chrétienne, votre conception de la vie chrétienne dans un certain cadre étroit, limité, en disant, ben, jusque-là et pas plus loin? Ou alors, est-ce que vous êtes prêt que le Seigneur vous prenne par la main et vous conduise peut-être sur des chemins, les chemins de la vie que vous n'avez jamais empruntés? Seigneur, conduis-moi plus loin. Vous savez, le prophète Ézéchiel, un jour, il a eu une vision. Il en a eu plusieurs d'ailleurs. Il a vu un fleuve, qui sortait du sanctuaire, qui sortait du trône de Dieu. Et puis un ange s'est approché de lui et lui a dit, avance dans ce fleuve. Alors, voilà, il a commencé à avancer. Et il dit, ah, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, voilà, jusqu'aux pieds. Vous voyez, il barbotait dedans, comme quand on est au bord de la mer, hein, et que l'eau est fraîche. Et là, j'ai dit, encore avance. Alors il dit, voilà, j'ai avancé un petit peu plus, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et là, j'ai dit, avance encore. Et il avançait un peu plus, il avait de l'eau jusqu'aux reins. Et là, j'ai dit encore, avance. Et le prophète dira, c'était un fleuve, un torrent que je ne pouvais traverser. Il fallait y nager. Est-ce que nous sommes prêts à ce que le fleuve de l'Esprit de Dieu nous emporte? Alléluia. Peut-être là où nous n'avions pas prévu d'aller. Peut-être plus loin que nous ne l'avions imaginé. Est-ce que nous sommes prêts, posez-vous cette question, à nous livrer sans restriction, Seigneur, en lui disant, attention, ne le dites pas à la légère. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Prends-moi et accomplis ton programme dans ma vie. Quel qu'en soit le prix, les conséquences, les effets, je sais que finalement ce sera tout bénéfice. Seigneur, donne-moi de faire des progrès. Donne-moi d'aller de l'avant par ta grâce. Pour pouvoir être bien enseigné, je continue sur cette idée d'enseignement, il faut être enseignable. Il y a des gens, on ne peut jamais rien leur apprendre. Hein? Voilà. Il y a des gens, hein, moi je connais une institutrice qui me fait part parfois des difficultés qu'elle peut avoir avec certains de ses élèves qui ne sont pas enseignables. Ils ne sont pas forcément idiots. Mais ils ne sont pas enseignables parce qu'ils ont une certaine mentalité, un certain état d'esprit, une certaine tournure d'esprit. Être enseignable, c'est désirer apprendre. Vous savez, les monsieur ou les madame, je sais tout, ils n'iront jamais loin dans le royaume de Dieu. Et puis, c'est cet esprit de docilité. Cet état d'esprit, cette capacité d'être enseignable, l'apôtre Paul l'avait. C'est pour ça que dans une certaine épître, il pourra dire « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. » Je sais vivre dans l'humiliation, l'épreuve, la difficulté, le dénuement, la pauvreté, les chaînes, même la prison. Je sais. Et je sais vivre aussi dans l'abondance. Je sais, non pas d'une manière naturelle, mais je sais parce que j'ai acquis une certaine formation, une certaine éducation, j'en ai bénéficié de la part du Seigneur. J'ai appris. Oh, que Dieu nous apprenne, vous et moi, à être contents des chemins par lesquels Dieu nous fait passer. Alléluia. Que nous puissions dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et je suis content. Parce que derrière même les difficultés que tu permets, je ne veux pas voir simplement le fait du hasard, de la malchance ou de je ne sais quoi, mon destin qui serait particulièrement sombre. Mais Seigneur, derrière tous les événements de ma vie, je veux croire qu'il y a ta bonne main qui me conduit, qui me dirige parfois, souvent, à mon insu. Je veux apprendre à être content. Je veux te faire confiance. Nous sommes des disciples. Nous sommes aussi des membres du corps de Christ. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ma réflexion. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 27, voici ce que l'apôtre nous dit, n'est-ce pas ? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'Église. Membre du corps de Christ qu'est l'Église. L'Église, rappelons-le, est constituée par le rassemblement universel de tous les authentiques disciples de Jésus. L'Église n'est pas une organisation. L'Église n'est pas un système. L'Église n'est pas une structure humaine. Elle est un organisme vivant, un corps animé de la vie divine que Christ lui communique par le Saint-Esprit. L'Église a une importance capitale aux yeux du Seigneur. Savez-vous qu'il est mort pour chacun d'entre nous ? Mais il est mort aussi pour que nous soyons réunis ce matin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, au verset 52, il est écrit qu'il est mort afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. Voyez ? L'Église est la fiancée de Christ, il l'aime passionnément. Il a donné sa vie pour elle, il intervient en sa faveur pour la faire un jour comparaître devant lui, sainte et sans reproche. Il se l'est acquise par son propre sang. Alors il y a l'Église universelle, nous l'avons dit, rassemblement de tous les disciples, où qu'ils se trouvent, à quelques dénominations qu'ils appartiennent. Mais il y a aussi les communautés locales de croyants qui sont aussi l'Église, tout au moins une partie de l'Église, à condition bien sûr que ces communautés en question soient attachées à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée dans les Saintes Écritures. Jésus a une considération particulière pour chaque église locale. Vous le croyez, ça ? Vous croyez que le Seigneur a les yeux fixés sur notre église en particulier ? Ben oui. Dans l'Apocalypse, quand Jésus mandate son serviteur, l'apôtre Jean, pour rédiger ses lettres, il n'écrit pas à l'église universelle, répandue sur la terre tout entière, mais à chaque église particulière. Thyatire, Pergame, Laodicée, Éphèse, Sardes, etc., etc. Il a une sollicitude particulière pour chaque église locale. Et aujourd'hui, nous le croyons, il en est de même, n'est-ce pas ? Et à ce titre, l'église locale doit être respectée par ceux qui la composent. Respecter l'église, c'est en tant que membre du corps de Christ, dont il est lui-même la tête, chercher l'unité. Alléluia ! Tous les membres ne forment qu'un seul corps. C'est manifester l'amour. Aimez-vous ardemment de tout votre cœur, nous dit l'apôtre Pierre. C'est exprimer la solidarité. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est mettre au service de l'ensemble du corps, et donc des autres membres, les talents que chacun de nous avons reçus. Rendez-vous par la charité serviteur les uns des autres. Les uns des autres. Je suis votre serviteur. Vous savez quoi ? Vous êtes les miens. Non ? C'est comme ça écrit. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Serviteurs les uns des autres. C'est comprendre la complémentarité. Tous les membres n'ont pas la même fonction, mais le texte dit en Corinthiens 12 que tous les membres, même les plus faibles, sont nécessaires. Il y a parfois dans l'Église des chrétiens, hélas, ils ont tort, mille fois tort, qui se méprisent, qui se dénigrent, n'est-ce pas ? Qui disent, eh bien moi, j'ai reçu si peu, moi, je compte si peu dans l'Église, moi, j'ai tellement peu d'importance, parce que j'ai reçu de la part du Seigneur si peu de talent, si peu de qualité. La parole de Dieu dit que même les membres qui peuvent apparaître comme étant les plus faibles sont nécessaires à l'ensemble du corps. Vous avez votre place dans le corps et cette place-là, elle est importante et quelque part on a envie de dire que sans vous, on ne peut rien faire. On a besoin de vous. Alléluia. Le Seigneur a besoin de vous. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus a cherché le petit ânon de Béthanie, pas grand-chose, un ânon, je ne vous ferai pas l'offense de vous traiter d'ânon, hein. Mais Jésus a dit à ses disciples, vous allez au détour du chemin, vous allez trouver un ânon attaché, vous le détachez et vous me l'amenez. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Alors ils ont été, ils ont détaché l'animal, et bien sûr les propriétaires ont réagi en disant, qu'est-ce que vous faites là? Alors ils ont dû répéter, hein, en chœur, tous les deux, le Seigneur en a besoin. Et comme par enchantement, on les a laissés partir. Le Seigneur en a besoin. Prenez cette parole pour vous, mon frère, ma sœur, qui que tu sois. Même si tu n'es pas David Wilkerson, Billy Graham ou je ne sais qui, tu es membre du corps de Christ et le Seigneur a besoin de toi. Et le Seigneur a besoin de toi. Ne pas s'en séparer du corps. N'abandonnez pas votre assemblée, dit l'Écriture. Vous savez, quand un membre, je parle du corps de Christ, mais c'est aussi vrai pour notre corps physique, un membre est séparé, coupé, retranché du corps, ça inflige une souffrance à tout le corps et ça met en question, le membre en question en danger. Chaque chrétien doit prendre cela en considération. Est-il besoin de rappeler que chaque chrétien se doit de faire partie d'une assemblée locale? Un jour, au cours d'une visite, c'était pas ici, Annecy, c'était dans une autre ville, une dame, je ne doute pas qu'elle ait vécu une expérience personnelle avec le Seigneur, elle m'a dit, vous savez, moi, je suis une chrétienne solo. J'avais jamais entendu ça. J'avoue que ma réponse a été un peu vive. J'avoue. Une chrétienne solo. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Eh bien, elle voulait dire qu'elle vivait marginalisée par rapport à toutes les églises, ou alors qu'elle faisait, vous savez, comme les volailles dans un poulailler, elle picorait ici, elle picorait là-bas, elle picorait ailleurs, mais elle ne voulait pas d'engagement précis avec une église locale. C'est une erreur, ça. Et c'est hors de la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Le livre des Proverbes, au chapitre 18, au verset 1, citons ce verset parmi d'autres, dit que celui qui se tient à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Je crois qu'il y a une version qui dit, il montre les dents à tout ce qui est sage, voyez. Celui qui se tient à l'écart. Nous sommes enfin, je termine par là, des ambassadeurs et des témoins de Christ. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 20, cette réalité est exprimée. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ambassadeurs de Jésus. C'est là notre vocation. C'est là notre fonction. C'est là notre appel, c'est là notre mission dans ce monde. Ambassadeur, ça veut dire quoi ça, ambassadeur? Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant de son gouvernement, de son pays d'origine en terre étrangère. Par exemple, l'ambassadeur des États-Unis en France représente le gouvernement des États-Unis en France. Voilà, il habite là-bas, à l'ambassade, tout près d'ailleurs du palais de l'Élysée, comme ça ils peuvent communiquer facilement, et il représente son gouvernement auprès des autorités, même auprès du peuple français. C'est ça un ambassadeur. Eh bien nous sommes les représentants de notre gouvernement, nous sommes les représentants sur la terre du royaume des cieux. Alléluia! Quel but noble et élevé. Nous sommes les porte-paroles et les messagers du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Et nous devons prendre en compte cette réalité, voyez. Au sein de votre famille, inconvertie peut-être, parmi vos collègues de travail, et au sein même de toute cette société humaine dans laquelle nous vivons, considérez-vous comme tels, comme des ambassadeurs. Vous n'êtes pas là dans votre usine, dans votre administration, dans votre université, dans votre lycée, dans votre collège, dans votre entreprise, chez votre employeur, quel qu'il soit. Vous n'êtes pas là simplement pour gagner votre vie. C'est normal, c'est légitime. Mais vous êtes là, au-delà des réalités terrestres, en tant que représentant du royaume des cieux. Vous êtes un ambassadeur. Et vous avez quelque chose à dire et quelque chose à être. Quelque chose à dire et quelque chose à être. Et il faut se considérer comme tel, parce qu'il y a urgence. Le texte nous y fait allusion, puisqu'il est dit, nous vous en supplions. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Tiens, justement, si au milieu de nous, ce matin, quelqu'un ou quelques-uns n'étaient pas encore réconciliés avec Dieu, si vos péchés n'étaient pas encore réellement pardonnés, si vous n'aviez aucune assurance, aucune certitude quant à l'éternité, eh bien nous voulons vous adresser ce message au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Jésus a donné sa vie pour vous sur la croix, pour que par son sacrifice, vos péchés comme les nôtres puissent être pardonnés, puissent être effacés et que vous obteniez une place dans le royaume des cieux. Non, non, pas par vos mérites, vos efforts, vos tentatives désespérées, vos actes de piété, mais par la seule grâce de Dieu. Ce matin, tout à l'heure, là, dans une minute ou deux, lorsque nous aurons achevé la prédication, que nous aurons un temps de prière, élevez votre cœur vers le Seigneur, silencieusement, intérieurement. Personne ne vous entendra, mais dites-lui, Seigneur Jésus, ce que ces gens-là ont, je voudrais l'avoir aussi. Pardonne mes péchés. Sauve mon âme, je veux être réconcilié avec toi. Et Dieu vous fera grâce, alléluia, et vous serez pardonné, sauvé et promis à la gloire du ciel. Il y a urgence, il y a aussi responsabilité de notre part. Nous ne pouvons pas taire le message dont nous sommes porteurs, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez, dans le livre des Actes au chapitre 4, un jour, les autorités religieuses ont convoqué l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean en leur disant « Nous vous interdisons formellement de prêcher au nom de Jésus !» Et ces deux-là ont répondu « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous savons, de ce que nous connaissons et de ce que nous avons entendu de la part de ce Jésus. » Nous ne pouvons pas ne pas parler. Eh bien, c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir. Nous ne pouvons pas ne pas parler. À moins de nous couper la langue, et encore nous parlerions par des signes, nous ne pouvons pas ne pas parler de notre foi. Bien sûr, avec sagesse. Bien sûr, quand les occasions se présentent, mais parfois il faut aussi les provoquer. Mais que le Seigneur nous aide à être de vrais ambassadeurs. Qui ne vont pas taire le message, mais qui vont le proclamer. En tant qu'ambassadeur, il s'agit pour nous de mener une vie pleine de dignité. La réputation, l'honneur, la gloire du Seigneur dont nous sommes les ambassadeurs est en jeu. Vous savez, lorsque David a péché dans l'affaire de Bathsheba, ce fut grave parce qu'il a offensé Dieu. Mais doublement grave parce que Dieu lui a fait ce reproche. Par ton péché, par ton comportement, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. L'avez-vous lu, cela? Tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Tu as donné prétexte aux incroyants pour se moquer du Seigneur. Alors que Dieu nous aide, afin que par notre mauvais comportement, nous ne fassions jamais blasphémer le nom du Seigneur, mais qu'au contraire, nous puissions le faire honorer et glorifier. En conclusion, voilà quelle est notre nouvelle identité. Nous sommes, nous l'avons dit, des enfants de Dieu, des disciples de Christ, des membres du corps de Christ, ce corps en question étant l'Église, et des ambassadeurs du Seigneur Jésus. Et c'est important, voyez, non pas de le savoir cérébralement, mais de vraiment prendre en compte ces réalités, réalités de ce que nous sommes, parce que la prise en compte de ce que nous sommes déterminera notre comportement, notre style de vie. Je vivrai selon ce que je sais être, selon ce que je suis. Je vivrai selon la prise en compte de ma nouvelle identité. Alors rappelons-nous ça. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis un disciple de Christ. Amen. Je suis un membre du corps de Christ, qui est l'Église, et je m'en réjouis. Alléluia. Et je suis un ambassadeur du Seigneur Jésus sur la terre des hommes. Telle est mon identité, telle est ma vocation. Que le Seigneur nous aide, vous aide, m'aide à vivre à la hauteur de cette vocation. Que le nom du Seigneur soit béni. Recueillons-nous quelques instants, voulez-vous ?